À Washington, Henri Francisque.
Il est midi, temps universel, 13h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal Actualité africaine pour commencer. Au Mali, 3 civils tués mercredi près de Gao, dans le nord du pays, dans une attaque suicide contre une base de l'ONU qui a fait 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens, selon l'AFP. Le chef de la MINUSMA, Mongi Amdi, a condamné cette attaque, se disant choqué que de valeureux soldats de la paix soient à nouveau pris pour cible, ainsi que des civils innocents. Cet attentat ne détournera pas la MINUSMA de sa mission de rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali, a souligné M. Amdi. En Guinée, l'opposition affirme que le bilan des 2 jours d'affrontement à Conakry s'élève à 3 morts et 50 de blessés. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le bilan provisoire s'établit à 3 morts, 50 de blessés, dont au moins 12 par balle, et près de 100 interpellations, a annoncé l'opposition dans une déclaration conjointe. Le précédent bilan de 2 jours de violence à Conakry s'établissait à 2 morts et plus d'une dizaine de blessés. Les opposants guinéens accusent les forces de l'ordre équipées d'armes de guerre d'être assurées de bénéficier d'une impunité absolue. Ils ont à nouveau appelé les militants et sympathisants à participer le lundi 20 avril prochain à une nouvelle marche pacifique. Amnesty International a exhorté mercredi les autorités à mener une enquête approfondie et indépendante sur les tirs des militaires. Damatang Albert Camara, porte-parole du gouvernement, répond qu'une enquête est déjà ouverte à la demande du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana.
Au Burkina Faso, le corps diplomatique, par le biais de l'ambassadeur des États-Unis, proteste contre le caractère exclusif du nouveau code électoral. Une initiative qui fait le bonheur des partisans de l'ex-président Blaise Compaoré. Mais la société civile burkinabé ne cache pas sa déception. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
C'est au détour d'une rencontre d'explication sur le nouveau code électoral avec le ministre de la coopération régionale du Burkina que Tulinabo Mushengi, l'ambassadeur des États-Unis, a dit ceci.
Le peuple doit avoir l'opportunité de choisir leur candidat et ces candidats doivent venir de toutes les couches sociales de la population. C'est aux électeurs de décider qu'on ne divise pas en différents groupes et c'est ça le principe de base que nous allons continuer à pousser dans nos dialogues avec collègues avec le peuple burkinabé.
Cette prise de position de l'ambassadeur des États-Unis est pratiquement applaudie par les partisans de Blaise Compaoré dans leur lutte anti-code électoral. On écoute Léonce Koné, le président du directoire du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès.
Il soutient la démocratie, de même que nous, l'appel que nous avons fait, ce n'est pas un appel pour nos partis politiques empêchés de se présenter. Nous aurons toujours des candidats pour les élections, mais c'est une lutte pour la démocratie.
Je crois que depuis que la transition a commencé, elle est accompagnée par des partenaires du Burkina, des pays amis, au rang desquels les États-Unis, la France. D'une manière générale, je crois que toutes ces ambassades, unanimement, se sont prononcées en faveur d'élections inclusives. J'espère que ces positions-là, de pays amis qui suivent la transition, vont amener le gouvernement, le CNT, à revoir leur position.
A contrario, les OSC, organisations de la société civile, qui ont toujours bénéficié des prises de position de l'ambassadeur américain, semblent ne plus rien comprendre. Elles ont donné de la voix ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Idrissa Nogo, le président du mouvement « Plus rien ne sera comme avant », explique.
Leur présence à nos côtés en ces moments difficiles doit être une présence qui rassure et qui nous donne la sécurité dans notre combat de tous les jours pour donc sécuriser les organes de la transition. Nous estimons qu'elle aurait dû donc trouver des mots forts et des mots qui nous libèrent. Qui nous permet donc d'avancer parce qu'effectivement la communauté internationale et particulièrement donc les États-Unis accompagnent la transition depuis l'insurrection. Donc nous estimons quand même que c'est une position qui est suffisamment ambiguë. Voilà, donc c'est une position que nous dénonçons parce qu'on estime quand même que c'est une primaire affaire interne et qu'ils doivent se contenter de nous accompagner au lieu de faire de l'ingérence.
Il faut souligner que la pression de la communauté internationale pèse de plus en plus sur les autorités de la transition pour qu'elles reviennent sur le code électoral.
Afrique de l'Ouest toujours, à Washington, le président Barack Obama salue ce qu'il qualifie de progrès considérable dans la lutte contre l'Ebola dans la sous-région. Des félicitations formulées alors qu'il recevait hier les leaders des 3 pays ouest-africains les plus touchés par l'épidémie. Chérubin Dorsil.
Barack Obama était ce mercredi l'hôte du président guinéen Alpha Condé, de la présidente libérienne Hélène Johnson Sirleaf et de son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Il les a félicités pour leur courage et leur détermination dans cette lutte plutôt difficile. Le président américain a aussi appelé la communauté internationale à la vigilance jusqu'à l'éradication totale de la maladie. Maintenant, nous nous concentrons sur un objectif commun et c'est d'arriver à zéro. Nous ne pouvons pas être complaisants. Ce virus est imprévisible. Nous devons être vigilants et la communauté internationale doit rester pleinement engagée dans un partenariat avec ces trois pays jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de cas d'Ebola dans ces pays, a dit le président Obama. Le nombre de cas d'Ebola est passé la semaine dernière à moins de 40 en Guinée et en Sierra Leone. Le Libéria n'a dépisté aucun nouveau cas. Un progrès énorme quand on sait qu'Ebola a tué au moins 10 000 personnes dans la région.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en RDC, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'ACAJ, exige la libération immédiate des jeunes Congolais détenus au secret depuis un mois suite à des manifestations pro-démocratie. L'ONU aussi demande aux autorités de les déférer devant la justice, conformément aux dispositions de la Constitution congolaise spécifiant que la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. En Afrique du Sud, appelle des autorités locales et régionales en faveur d'une marche contre la xénophobie aujourd'hui à Durban, dans le KwaZulu-Natal. Le parti au pouvoir, l'ANC, et le prince des Zoulous ont condamné les violences xénophobes de Durban, des violences qui menacent de reprendre à Johannesburg. Michel Joseph.
Quelle que soit la cause de ces actes barbares, le Congrès national africain les considère comme des actes criminels, a fait savoir l'ANC dans un communiqué appelant les Sud-Africains à condamner ces exactions. Dans la journée de mercredi, la situation s'est calmée à Durban après plusieurs jours de violences qui ont fait au moins 6 morts, rapporte l'AFP. Le prince Zulu, Thulani Zulu, a tenté également d'apaiser les tensions, disant que son père, le roi, condamnait ces violences xénophobes dans les termes les plus fermes. Ce dernier, Goodwill Zwelithini, chef spirituel de quelques 12 millions de Zoulous, avait déclaré le mois dernier que les immigrants illégaux devaient faire leurs bagages et quitter le pays.
Actualité hors d'Afrique. Le président américain Barack Obama et le premier ministre irakien Haider al-Abadi ont discuté cette semaine à Washington de la lutte contre le groupe État islamique. Le département d'État américain, lui aussi, est engagé dans un combat sur ce même front. Des précisions avec Lionel Gaïma.
De représentants de 11 pays membres de la coalition américaine contre le groupe État islamique effectuent actuellement une tournée ici aux États-Unis. Au programme de rencontres à Washington, New York et San Francisco pour explorer les moyens de contrer la propagande du groupe militant, en particulier l'attrait qu'il exerce sur certains étrangers. Plus de 3000 Marocains ont déjà rejoint des rangs du groupe en Irak et en Syrie, a fait remarquer le législateur marocain Mohamed Ben Khaloud qui participe à la tournée. Les principales raisons sont le chômage et la pauvreté. Comme vous le savez, la plupart de ces gens sont à la recherche d'une vie meilleure qu'ils peuvent n'y pas trouver dans leur propre pays. Le groupe État islamique utilise avec succès des médias sociaux pour faire appel aux étrangers, explique Khaled Okacha, directeur du Centre national égyptien d'études des sécurités. Il cible donc les jeunes en quête probablement d'aventures, de nouvelles expériences et qui peut-être ont aussi en eux une violence qu'ils veulent exprimer. Selon des responsables américains, plus de 20 000 étrangers ont rejoint les rangs du groupe État islamique, dont environ 3 400 occidentaux. Parmi eux, le soi-disant djihadiste John, qui est apparu dans plusieurs vidéos de décapitation de l'État islamique et qui serait britannique. Récemment, 3 adolescentes sont parties en avion de Londres pour la Turquie, dans ce qui, de l'avis des enquêteurs, était une tentative de rejoindre le groupe État islamique. Pour contrer les extrémistes, les départements d'État aident des gouvernements étrangers à utiliser des médias traditionnels et sociaux pour relater les expériences de communautés touchées par la violence militante, a expliqué Sharik Zafar, représentant spécial du département d'État pour les communautés musulmanes. D'autres histoires importantes, à mon avis, sont celles des transfuges, des gens qui, peut-être par choix ou sous la contrainte, sont effectivement partis combattre avec le groupe, puis se sont dit « ce n'est pas ce pour lequel je me suis engagé », a expliqué que le représentant spécial du département d'État pour les communautés musulmanes.
Et pour terminer, pour parler sur le nucléaire iranien, les négociateurs de l'Iran et 6 grandes puissances du P5 plus 1 reprennent leurs discussions la semaine prochaine à Vienne, en Autriche. Plus exactement, les 22 et 23 avril. L'objectif des deux camps, transformer l'accord cadre conclu au début du mois en un accord global et final d'ici au délai limite du 30 juin qui se sont eux-mêmes imposés. Les grandes puissances veulent limiter le programme nucléaire iranien pour faire en sorte que Téhéran ne fabrique pas des armes atomiques. L'Iran veut en échange la levée des sanctions qui nuisent à son économie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.